Il ne faut pas attendre à ce qu'il y ait, disons, des résultats spectaculaires de cette première rencontre. C'est qu'il y a énormément de suspicions des deux côtés, en particulier du côté palestinien, à cause de la colonisation du territoire palestinien en Cisjordanie en particulier par Israël, le blocus de Gaza qui continue. Et donc, les Palestiniens ne sont pas très sûrs des plans du Premier ministre israélien. Alors, c'est pourquoi les Palestiniens sont très, très prudents, sachant qu'ils sont dans une position de faiblesse excessive face à un Israël qui est très, très dynamique et qui, de surplus, est appuyé par à la fois l'administration, mais également le Congrès américain. On verra si Monsieur le Président Obama sera en mesure de ramener les Israéliens à accepter le droit international sur la base des résolutions 242, 338 du Conseil de sécurité, qui ont été toujours, en fait, le cadre de toute éventuelle résolution du conflit israélo-palestinien en retour aux frontières de 67.
Les Israéliens ont aussi des revendications, des conditions. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou dit qu'il n'a pas promis à Washington une prolongation du gel des colonies en Cisjordanie. Deux, il veut la reconnaissance d'Israël comme État du peuple juif. Et dit-il, cela permettrait d'exclure des demandes supplémentaires. Qu'est-ce que cela veut dire?
Bon, il est très difficile d'imaginer ce que M. Netanyahou veut dire, franchement. Lui-même, il change, vous voyez, il évolue. Il faut dire que, de façon très très claire, que la colonisation est contre le droit international. Bon, les résolutions de l'ONU sont là pour être respectées. Il faut rappeler que c'est une résolution de l'ONU qui a créé l'État d'Israël. Et donc, il est nécessaire pour Israël de, non seulement de reconnaître l'autorité de l'ONU, mais également respecter ces résolutions. Le deuxième point sur les revendications israéliennes, la résolution 181 qui a donné naissance à l'État Israël parle clairement d'un État juif, c'est-à-dire que c'est un État pour les Juifs. Ce que M. Netanyahou essaye de faire probablement, c'est de faire oublier tout simplement la question des réfugiés palestiniens qui résidaient dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'État d'Israël. Alors, on sait qu'il y a une résolution de l'ONU 194 qui reconnaît effectivement le droit des réfugiés palestiniens de retourner chez eux là où aujourd'hui il y a une population juive. Ce genre d'exigence de M. Netanyahou, c'est un acte préventif pour toute négociation qui devrait en principe et logiquement aboutir non seulement à résoudre la question de territoire, mais également la question de population.
Une des conditions, en tout cas, ce que veulent faire les Palestiniens, c'est avoir leur État, un État viable, comme ils le disent. Quel genre d'État, justement, Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, veut-il proposer aux Palestiniens aujourd'hui?
Ce que M. Netanyahou proposerait, ce sera un État, disons, vide de contenu. Ce que les Palestiniens cherchent, c'est un État fonctionnel, c'est un État, comme vous dites, fiable et viable. C'est un État qui doit prendre le destin des Palestiniens en main, les proposer un programme de développement et bien d'autres choses que tout autre État est supposé de faire. Donc, il y a une différence disons, d'appréciation de vue énorme qui sépare Palestiniens et Israéliens. Pour les Israéliens, et en particulier pour la droite israélienne aujourd'hui dirigée par M. Netanyahou, peut-être, il répéterait la nécessité de la création d'un État palestinien, mais un État palestinien avec les frontières qui ne sont pas fixes. Et alors, donc, c'est un État qui est objet, disons, de toutes sortes de pressions, d'interventions de la part d'Israël. Et ce n'est pas nécessairement ce que les Palestiniens cherchent maintenant depuis plus de 60 ans.
Encore faut-il que les Palestiniens, de leur côté, accordent leur violent, c'est-à-dire en Cisjordanie et à Gaza. Où va avoir lieu cet État?
C'est une excellente question, je crois, étant donné que vous avez parfaitement raison de souligner les divisions qui existent au sein du camp palestinien. Il y a en Cisjordanie, c'est le fait ou l'autorité provisoire de M. Abbas qui est en charge. Dans la bande de Gaza, c'est le Hamas qui dirige le destin de territoire. Ce qui signifie finalement, comme préalable à tout espoir de réussir dans cette aventure, disons, de dialogue, il faut qu'il y ait une cohésion du côté palestinien. Bon, supposons qu'il y ait finalement une entente entre Hamas et Fatah sur la question. Là, c'est justement là où l'État palestinien devrait voir le jour, c'est-à-dire en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Mais c'est un des aspects, si vous voulez, disons, du problème. L'aspect le plus important, c'est justement la souplesse ou la flexibilité, disons, de la frontière israélienne, avec, en particulier avec la Cisjordanie. Donc pour Israël, revenir aux frontières d'avant la guerre de 1967 était rejeté dans le passé par le Likoud de M. Netanyahou. On verra si M. le président Obama sera en mesure, disons, de ramener les Israéliens à accepter le droit international.
Ouais, mais justement, que peuvent faire les Américains dans ce dossier, concrètement?
Bon, les Américains, ce sont les seuls, apparemment, que les Israéliens écoutent. Les Américains sont en train, à mon avis, disons, de perdre de plus en plus cette possibilité qu'ils avaient. C'est-à-dire que les États-Unis donnent aux alentours de 3 milliards de dollars par année à Israël. Les États-Unis, qui sont la puissance la plus grande, protègent et appuient la puissance la plus importante militairement dans la région du Moyen-Orient, c'est-à-dire Israël. Par conséquent, les États-Unis protègent en quelque sorte Israël sur le plan diplomatique, mais également au sein de l'ONU, chaque fois qu'il y a une résolution qui condamnerait Israël pour les excès de la violation des droits humains, les États-Unis utilisent le droit de veto. Donc les Américains ont énormément de cartes en main, mais comme j'indiquais tout à l'heure, sont en train de perdre un petit peu cette capacité d'influencer la politique israélienne. Il y a également une division au sein de l'État américain entre la Maison-Blanche, qui, même depuis, disons, M. Bush, parle de la nécessité de créer l'État palestinien, et aujourd'hui, M. Obama répète la même chose, et le Congrès américain qui, au sein duquel il y a un groupe, disons, des pro-israéliens extrêmement actifs et qui a la possibilité de modifier ou, disons, d'influencer la politique de la Maison Blanche vis-à-vis, disons, de toute perspective de paix entre Israéliens et Palestiniens.